Pour Paris, donc moins 3 à Guéret, moins 2 à Rodez et Épinal, moins 1 à Charleville-Mézières, Aurillac et Nancy, 0 degré à Montluçon et Besançon, 1 degré à Colmar, 2 à Chambéry, Albi, Lille, 3 degrés à Paris, 6 à La Rochelle, Nîmes et Cherbourg et 9 à Biarritz. Cet après-midi, température ressemble à celle d'hier, avec 8 à 16 degrés. C'est dans le sud que ça baisse, avec 16 degrés à Marseille. Dans le ciel, c'est agréable sur la moitié nord, agité dans le sud-est et un petit peu nuageux aussi entre la Gironde et les Pyrénées.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 23 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, Jean-Luc Mélenchon ou la stratégie de la tension permanente. Reportage des débuts de cette édition à Sciences Po Paris où le leader de la France Insoumise tenait une conférence sur Gaza hier soir. Rentrée scolaire mouvementée également au collège Arthur Rimbaud de Montpellier. Les profs sont en grève et en colère contre notamment la maman de Samara, l'adolescente tabassée au début du mois. La jeune fille a dû reprendre les cours à distance. Dans ce journal également, la commission spéciale a entamé ses travaux sur le projet de loi de fin de vie. Incompréhension chez les soignants tenus à l'écart des auditions. Et puis nous parlerons du succès d'un livre enquête qui fait polémique. Je vous en parlais à l'instant. Transmania déchaîne les passions et fait exploser les ventes. Journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne sait pas si c'était le but recherché, mais à son arrivée devant Sciences Po Paris hier soir, Jean-Luc Mélenchon a eu droit à ce petit comité d'accueil.
Tout le monde déteste Mélenchon.
Le leader de la France Insoumise, conspué à l'extérieur, sagement écouté à l'intérieur dans le grand amphithéâtre de l'Université des sciences politiques de la rue Saint-Guillaume. Deux fois interdit de conférence à Lille, Jean-Luc Mélenchon a pu dérouler son argumentaire sur Gaza, la vie politique et les questions d'actualité. Le tout devant un public acquis à sa cause, à quelques détails près. Reportage Alexis de la Fontaine.
Jean-Luc Mélenchon doit se frayer un chemin pour remonter la rue Saint-Guillaume avec l'aide de militants insoumis face à un collectif d'étudiants de droite qui manifeste contre sa venue. Yven, responsable de l'association Unie, se justifie.
La France Insoumise, ça reste le parti qui a des ambiguïtés vis-à-vis de l'antisémitisme, le parti qui refuse de condamner clairement le Hamas, le parti qui a tout le plusieurs fois des propos anti-France.
À l'intérieur, Jean-Luc Mélenchon célèbre sa victoire. Il peut enfin tenir sa réunion dans une université grâce à une petite ruse pour contourner les règles en période de campagne électorale. L'Insoumis vient officiellement pour une conférence littéraire et non pour un meeting sur la Palestine comme à Lille. La preuve.
Notre pensée est tout entière tournée vers ceux qui sont à cette heure massacrés à Gaza. Et notre cœur est avec eux. Je vous invite à participer continuellement à la protestation contre le macartisme qui s'installe dans ce pays.
Gaza, c'est bien la véritable obsession du leader insoumis qui espère, avec cette cause, mobiliser les électeurs musulmans le 9 juin.
Un reportage Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, Gaza et la Palestine, il en sera question demain, toujours à Sciences Po, mais à Saint-Germain-en-Laye, conférence animée par Rima Hassan, candidate LFI aux européennes.
Trois semaines après avoir été violemment frappée, Samara n'est pas forcément la bienvenue dans son collège.
Mais l'adolescente a repris les cours, mais à distance, le temps que les choses se calment, c'est assez mal parti, effectivement. La jeune fille et sa famille ciblent des vives critiques de parents d'élèves et des enseignants très remontés contre les accusations de la mère de Samara, notamment. Et il l'aurait laissé, l'adolescente, sans protection face à ses harceleurs. Reportage Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Devant le collège, les 80% d'enseignants grévistes sont rassemblés. Leur porte-parole, feuille à la main, défend la copie du corps éducatif.
Nous sommes profondément indignés par les déclarations diffamatoires véhiculées par la majorité des médias et par la famille de Samara et par les récupérations politiques qui nuisent à la réputation de notre établissement.
Des professeurs accompagnés de parents d'élèves acquis à leur cause, comme Saïda, qui enrage contre la mère de Samara.
Pourquoi il a fallu, au bout d'un an et demi, qu'elle se réveille, sa mère? Là, elle a le temps d'aller voir les médias. Mais où es-tu pendant un an? Il a fallu qu'elle se fasse taper. Il fallait te réveiller avant, donc il fallait surveiller tes enfants.
Un contexte extrêmement tendu dans le collège. Il faut donc à tout prix protéger Samara, assure Christine, sa grand-mère.
Samara, je pense pas qu'elle veut retourner dans cette cage au lion.
Là-bas, on l'attend, à votre avis, ou
pas? Peut-être que oui. Alors, on va pas jouer à la roulette russe.
Une adolescente en danger, dans un collège très loin d'avoir retrouvé sa quiétude. L'entourage a donc déjà commencé les démarches pour la changer d'établissement. À Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1.
À Grande-Synthe, maintenant, toujours beaucoup de questions. Une semaine après le passage à tabac mortel de Philippe.
Enquête toujours en cours, 2019. mineurs de 14 et 15 ans sont mis en examen et dorment en prison en attendant la fin de l'instruction. Mais un troisième suspect surgit dans cette histoire. Il est en garde à vue depuis hier. Cet adolescent a été interpellé après avoir lui-même été agressé violemment par des inconnus. Le tout sur fond de règlement de compte présumé. Enquête Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
D'abord présenté comme victime d'une sorte de règlement de compte aveugle parce que cousin de l'un des deux assassins présumés de Philippe Copman, l'adolescent de 15 ans est désormais considéré comme suspect dans l'agression barbare qui a coûté la vie mardi dernier à l'animateur de centre de loisirs. Les enquêteurs vont devoir établir son degré d'implication exact dans le déchaînement de violence survenu cette nuit-là. La procureure de Dunkerque l'avait dit, d'autres suspects étaient bel et bien recherchés, peut-être auteurs de précédentes agressions du même type. C'est le sentiment de Kelvin, l'un des frères de Philippe Copman.
Ça prouve que l'enquête à l'avance. Après, comme je vous ai dit, la vérité, on ne la sait pas. On ne sait pas, ils étaient que bien sur mon frère. On ne sait pas sur les agressions précédentes, ils étaient que bien. Il faut démanteler tout le groupe parce que c'est une bande de sauvages, de barbares. Et si on pense à toute la population, il faut attraper toute leur bande et tout l'entourage qui faisait des choses comme ça.
Mais ce qui est troublant dans ce rebondissement, c'est que cela laisse penser qu'à Grande-Synthe, certains étaient au courant ou en tout cas convaincus de la responsabilité de cet ado, nouveau suspect dans la mort de Philippe. Des inconnus qui ont voulu faire justice en le passant à tabac et qui n'ont toujours pas été interpellés.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Dans l'actualité ce matin également, le projet de loi sur la fin de vie, la commission spéciale a entamé ses travaux hier à l'Assemblée.
Elle prévoit notamment d'entendre plusieurs acteurs de la santé, mais pas tous, et c'est bien ce que regrettent de nombreuses associations et fédérations de soignants. C'est le cas également de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Explication Mélanie Gomez.
Les gériatres ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été convoqués pour être interrogés par cette commission. Leur implication dans le processus d'aide à mourir est pourtant, lui, bien mentionnée dans plusieurs articles du projet de loi. Projet de loi qui compliquerait déjà leur travail au quotidien depuis plus d'un an. En fait, la possible ouverture d'une aide à mourir a introduit une perte de confiance avec les patients les plus âgés, explique le docteur Sophie Moulias de la Société française de gériatrie et gérontologie.
Il y en a beaucoup qui ne veulent pas venir à l'hôpital en disant « mais on sait qu'à l'hôpital, on ne soigne pas bien les vieux » et on sait qu'aujourd'hui, on préfère les tuer. Les gens sont très inquiets, donc ils sont persuadés qu'il va forcément y avoir de la douleur, de la souffrance, qu'on va leur dire qu'on ne peut plus rien faire à leur âge et qu'on va leur proposer la piqûre, comme ils disent souvent, ou le bouillon de minuit. Ça, on l'entend depuis en fait que les discussions ont commencé.
Que les gériatres soient entendus ou pas, le texte, lui, va continuer son chemin législatif. Après l'examen par cette commission spéciale, le texte remanié arrivera dans l'hémicycle le 27 mai prochain.
Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1.
La Grande-Bretagne va expulser ses migrants vers le Rwanda.
Et adoption de ce projet de loi très conversé cette nuit par le Parlement, mesure phare du gouvernement de Rishi Sunak pour lutter contre l'immigration clandestine. Le Rwanda accueillera les migrants refoulés par les autorités britanniques en échange d'une aide financière.
Et puis il cartonne sur les plateformes de vente en ligne. Vous avez peut-être du mal à la trouver en librairie. Le livre Transmania fait-il l'objet d'une censure qui ne dit pas son nom ?
Enquête jugée transphobe par SOS Homophobie, dépôt de plainte à l'appui, affiche publicitaire retirée. Le parfum du scandale entoure ce livre enquête. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des exemplaires planqués tout au fond de certains rayons dans les librairies. Pas de quoi, semble-t-il, entamer les ventes, Marie Gicquel.
12 jours après la sortie de Transmania, difficile de relever des chiffres de vente précis, même pour son éditrice Laura Magnier.
C'est vraiment compliqué de savoir précisément où est-ce qu'on en est en termes de chiffres. Je pense qu'on y verra plus clair dans quelques semaines.
Mais sur les plateformes de e-commerce, le livre se hisse en tête des ventes.
Bien sûr, on sent effectivement qu'il y a un emballement autour du sujet. Je pense que la polémique avec JC Decaux et l'annulation de l'affichage a beaucoup joué également.
En librairie ou dans les grandes enseignes comme la FNAC, si le livre semble absent des rayons, c'est parce qu'il est en réimpression, comme nous le confirme Laura Magnier.
Là, on a affaire à une rupture de stock, c'est-à-dire que les exemplaires en magasin ont été vendus soit par l'intermédiaire du e-commerce, et donc c'est pour ça que le livre est arrivé numéro 1 aussi sur le site de la FNAC. Mais je ne pense pas qu'il y ait de censure particulière dans les magasins FNAC. Je pense qu'ils sont en train d'être réapprovisionnés en stock.
Après plusieurs milliers d'attaques sur le site de l'éditeur Magnus, le livre ne sortira pas pour le moment en version numérique.
Marie Gicquel du service Culture d'Europe 1.
Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Peut-être les avez-vous vus sur les réseaux sociaux, ces robots humanoïdes que préparent plusieurs sociétés, notamment américaines, Tesla ou encore Nvidia. Ces robots humanoïdes vont arriver dans nos existences sans doute très rapidement. On va en parler avec Nicolas Bouzou dans quelques instants, juste après nos deux invités actus sur Europe 1 dans un instant, Dora Mouto et Marguerite Stern, les auteurs par qui le scandale arrive, les auteurs du livre Transmania dont nous parlions à l'instant sur Europe 1. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros. Bonus éco 4000 euros. Remise éco Fiat 3000 euros. Et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Fiat.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. En avril, Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les 4 tranches de blanc de poulet doré au four Monique Ranou sont à seulement 1,42€. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, origine France, 160 grammes, soit 8,88€ le kilo, sur la base d'un relevé en date du 22 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Dora Mouto et Marguerite Stern.
Les auteurs ou autrices, hein, vous ferez comme vous voudrez, du livre Par qui le scandale arrive, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, livre paru chez Magnus. Bonjour Dora Mouto.
Bonjour.
Et bonjour Marguerite Stern. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Ce livre Transmania, ça vous vaut quelques problèmes, quelques plaintes, hein, le retrait des publicités aussi pour votre ouvrage dans les rues de Paris, à l'initiative de la mairie qui vous accuse rien moins que de transphobie, de colporter la haine. Les mots sont très forts, on va évidemment en parler. Je dirais que c'est souvent comme cela quand on porte la plume dans la plaie. Alors avant de parler des remous autour de votre livre, quel est le propos de transmania? Je ne sais pas, Dora ou Marguerite Stern, pour commencer.
Ce qu'on appelle la transmania, c'est cette espèce de frénésie qu'il y a autour du phénomène trans. C'est-à-dire que la transmania est partout aujourd'hui, dans les cours de récréation, dans les médias, dans les grandes entreprises. On voit de plus en plus de personnes qui veulent vous obliger à mettre vos pronoms, par exemple, en signature d'email, dans les cours de récréation.
Donc
les
votre
élèves...
pronom, c'est est-ce qu'il faut vous dire il, elle ou yel,
voilà,
ou encore
exactement,
autre chose.
Parce qu'en fait, donc, on parle de l'idéologie transgenre, ces personnes qui disent qu'elles veulent changer de genre. Avant, on disait qu'on voulait changer de sexe, on était transsexuel. Mais aujourd'hui, donc, on parle de changer de genre. Le genre, c'est quoi? C'est l'étiquette sociale, la façon dont vous vous présentez au monde. Et donc, on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui veulent devenir des hommes qui veulent devenir des femmes, des personnes qui se disent non-binaires aussi entre les deux.
Mais l'idéologie transgenre, si j'ai bien saisi, Dora Mouto, c'est cette idée que finalement, la biologie telle que la nature a fait chacun de nous individus ne compte pas. Mm-hmm. Ce qui compte, c'est le vernis culturel, ce que vous appelez le genre, l'identité que je m'attribue.
En fait, c'est cette idée qu'on peut être né dans le mauvais corps, donc ça ressemble comme ça un peu à une croyance religieuse. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a des gens qui pensent vraiment être nés dans la mauvaise chaussette, entre guillemets.
Alors ça existe, hein, la dysphorie de genre.
Oui,
mais
ce n'est pas parce qu'on est dysphorique qu'on est forcément né dans le mauvais corps. En fait, il y a tout un tas de problèmes psychiatriques qui peuvent amener à penser ça. Et en fait, aujourd'hui, on pousse les gens en fait, dans ce qu'on appelle un protocole transaffirmatif, c'est-à-dire qu'on va les valider directement dans leurs croyances. C'est-à-dire, bah voilà, si demain, moi, je dis je suis un homme, on va me valider dans ma croyance et me faire transitionner socialement, mais aussi physiquement, avec des hormones et de la chirurgie, et des chirurgies, la plupart du temps, irréversibles.
Alors, moi, j'ai envie de vous dire, Dora Mouto, Marguerite Stern, mais peut-être suis-je naïf, c'est que ces choses-là, effectivement, on en entend parler aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. On avait l'impression quand même qu'en France, ça restait quelque chose d'extrêmement marginal. Or, à la lecture de votre ouvrage, on se dit que finalement, cette idéologie transgenre, elle avance de plus en plus et elle est peut-être beaucoup plus présente qu'on ne le croit. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour montrer aux auditeurs d'Europe 1 où est-ce qu'on la voit aujourd'hui, cette idéologie transgenre, Marguerite Stern?
Pour donner quelques exemples sur la France, on a par exemple des manuels scolaires qui parlent aujourd'hui de sexe assigné à la naissance, d'identité de genre, donc qui rejettent totalement la biologie, qui font du prosélytisme auprès des élèves en leur propageant des croyances. On a aussi eu récemment le cas d'un homme transféminin, donc un homme qui se dit femme, qui a gagné une compétition sportive de femmes sur un 200 mètres.
Oui.
Monsieur s'appelle Alba Diouf.
Oui. Et il a écrasé la concurrence. Hein. Il finit avec 50 mètres d'avance, je crois.
Voilà, quand il concourait chez les hommes, il était 980e à la place, en place nationale. Il est passé aujourd'hui 58e international chez les femmes. Donc, la question des sports. Et puis la question des médias aussi, par exemple, on a certains médias aujourd'hui en France qui nous parlent de personnes menstruées, de sexe assigné à la naissance, quand il faut parler d'endométriose, qui est une question qui touche les femmes. Donc on efface le mot femme au profit de ce type de vocabulaire.
Ça, ce sont des signaux faibles. Quand le vocabulaire est transformé, il faut être attentif parce que ça signifie l'avancée d'une idéologie. Alors, on va regarder maintenant ce que les militants transgenres vous reprochent. C'est le sous-titre de votre livre. Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'infiltre dans toutes les sphères de la société.
Oui.
Voilà. Sous-entendu, vous verriez le mal partout, quelque part. En tout cas, l'idéologie transgenre partout.
C'est pas qu'on voit le mal partout, c'est que, en fait, c'est une idéologie qui est financée. Voilà, il y a un rapport de LGBT Funder, c'est un groupe de philanthropes, qui dit qu'ils ont injecté plus de 36 millions en 2021 pour faire avancer les revendications transgenristes. Et donc.
36 millions d'euros en France?
Non, de dollars aux États-Unis. Oui. Mais en fait, cet argent revient en Europe à travers certaines ONG comme Transgender Europe, etc. Et en fait, ils financent toute une nébuleuse d'ONG qui vont s'occuper de faire avancer la notion d'identité de genre, enfin, faire en sorte que cette notion pénètre dans la législation. Ils vont aussi faire en sorte que le langage change avec certaines assos qui vont travailler, par exemple, avec l'Associated Press aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'Agence France, enfin, presse, et qui vont éduquer les journalistes sur comment il faudrait parler de la question. Il y a aussi certaines ONG qui pousse certains politiques trans. Enfin, en fait, c'est très organisé tout ça. Et puis surtout, le côté législatif en France a beaucoup avancé. Depuis 2016, on peut être une femme et avoir un pénis en France. C'est-à-dire que il y a une sorte de fiction légale qui s'est créée et il y a une décorrélation entre l'état civil et le biologique. C'est plus la même chose.
Mais pardonnez-moi, encore une question qui vous semblera peut-être un peu naïve, mais en quoi c'est grave, Marguerite Stern, que des gens défendent leur vision du monde et s'organisent comme un lobby et mettent de l'argent dessus? En quoi c'est grave finalement cette idéologie transgenre? Qu'est-ce qui vous semble grave de votre point de vue?
Alors ce qui nous semble grave, c'est que premièrement, c'est une question de santé, une question de santé publique. On est très inquiète aujourd'hui pour les enfants qu'on fait transitionner dans les hôpitaux français. D'ailleurs, il y a une proposition de loi du groupe Les Républicains pour interdire les transitions médicales pour les enfants. Il y a eu des scandales sanitaires outre-Atlantique et donc
Il y en a tant que cela, des enfants qui changent, qui
alors
font.
Alors, on n'a pas les chiffres exacts. En fait, les seuls chiffres dont on dispose sont ceux de la Pitié-Salpêtrière, qui sur 10 ans ont accueilli à peu près 200 enfants. Mais il y a entre 16, 18 autres services équivalents en France. Donc voilà, à partir des chiffres de la Pitié-Salpêtrière, on peut faire des projections. Et puis enfin, ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne le répétera jamais assez, nous, on n'est pas contre les personnes trans. On est contre cette idéologie, en fait, contre ce projet politique prosélyte qui veut changer la société en profondeur en effaçant la sexuation, en effaçant le mot femme. Et nous, en tant que féministes, on s'oppose à ce projet politique-là.
Dans le journal de 7h tout à l'heure sur Europe 1, Marie Jiquel racontait que votre livre, il est l'objet d'une chasse aux sorcières, littéralement, à savoir que des militants transgenres dans les librairies ou pour l'acheter vont le planquer pour que ceux qui voudraient l'acheter ne le trouvent pas. J'ai noté aussi que votre livre, on ne le trouvait pas en version numérique et que votre éditeur avait été la cible de cyberattaques.
Oui, plus de 7000 cyberattaques sur le site. Et malheureusement, ce n'est pas que les militants transgenristes qui le cachent, c'est aussi il y a les libraires qui le cachent eux-mêmes. Il y a des libraires qui refusent de le vendre. Nous, on a énormément de gens qui nous contactent en disant les librairies ne veulent pas le vendre. Ils disent achetez-les sur Internet. Ça fait qu'on est best-seller à la fois sur la Fnac et sur Amazon.
Mais défaut, parce qu'on a du mal à vous trouver en librairie, en boutique.
Oui, on a
exactement. Et tout ça, c'est un peu le prolongement aussi de 4 ans d'années d'harcèlement qu'on subit avec Dora. On a perdu des contrats, on s'est pris des œufs dans le visage en manifestation féministe. Oui. Et pour nous, aujourd'hui, la publication de ce livre est un véritable acte politique. on pose un acte, on pose on a un message à faire passer au monde. On a l'impression que ce message, malgré la censure, est en train d'être entendu.
Dernière question, vous vous définissez toutes les deux comme des féministes de gauche, mais finalement les violences dont vous êtes la cible, les attaques dont vous êtes la cible, elles viennent de militantes qui elles aussi se disent féministes et de gauche, Dora Mouto.
Je pense qu'on ne se dit plus de gauche ni de droite. On pense que voilà, défendre notre position, ça devrait être une position apolitique. Effectivement, il y a plus des médias de droite qui nous donnent la parole et on les remercie.
Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues sur Europe 1 pour nous parler donc de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est paru chez Magnus. Merci à toutes les deux, Dora Mouto et Marguerite Stern.
Merci.
Bonne journée à toutes les deux.
Merci. Il est 7h20 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin. L'édito Écho.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Tout autre sujet Nicolas avec vous, vous nous parlez souvent d'intelligence artificielle.
Et oui.
Le champion industriel de cette révolution technologique, l'américain Nvidia, annonce maintenant l'arrivée rapide sur le marché de robots humanoïdes.
Ouais, absolument, c'est Jensen Huang, le président de Nvidia, qui a annoncé ça il y a quelques jours. Alors je rappelle que Nvidia, c'est cette entreprise américaine qui fabrique des puces dites GPU. Ces puces sont conçues pour des applications graphiques, pour des jeux par exemple, mais elles sont aussi très utilisées pour les besoins des simulations numériques, par exemple pour des simulateurs d'avions ou pour simuler des opérations chirurgicales. Elles sont très utilisées pour de l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou des calculs scientifiques ultra complexes, par exemple dans la physique fondamentale. Et ces puces, c'est ça le cœur du sujet, elles font des progrès incroyables. Elles sont aujourd'hui 1000 fois plus efficaces qu'il y a 8 ans. Alors, plus efficaces, ça veut dire qu'elles sont plus puissantes, mais aussi qu'elles sont moins consommatrices d'énergie. Et c'est en se basant sur le progrès de ces puces que Jensen Huang annonce l'arrivée de robots humanoïdes à des prix modiques. Parce que, en fait, ces robots, Dimitri, ce sont des intelligences artificielles avec des mains, des bras, des jambes. Ces robots voient de mieux en mieux, parfois mieux que des humains. Ils font des progrès très importants en matière de toucher, ce qui est très important, par exemple, pour manipuler des objets fragiles.
Alors, ces robots, que feraient-ils? Combien coûteraient-ils, Nicolas?
Alors, d'après Huang, ils vont coûter entre 10 et 20 000 dollars, ce qui est peu. Huang fait une comparaison avec les voitures. Ce prix, c'est à peu près le prix d'une voiture neuve pas très chère. Et donc, on pourrait avoir le même taux d'équipement qu'en automobile. Selon lui, ça arrive très vite. Alors, c'est aussi le pari économique d'Elon Musk, vous savez, qui va en produire et en commercialiser au sein de Tesla. Alors que feront-ils ces robots humanoïdes? J'aurais tendance à vous dire un peu tout ce que vous voulez. Avec ChatGPT, vous pouvez parler un peu de tout, lui demander des conseils médicaux, des recettes de cuisine, des calculs statistiques complexes. Les robots, ce sera pareil. Dans un premier temps, vous les trouverez dans des usines, dans des entrepôts, dans des hôpitaux. Et puis, dans un deuxième temps, quand les coûts auront baissé, vous pourrez en acheter chez vous pour aller à l'épicerie, faire le lit, débarrasser la table. Alors, vous savez, moi, je supporte pas de débarrasser la table ou monter un meuble en kit.
20 000 dollars pour débarrasser la table, ça fait un peu cher.
Alors ça ne fait pas que ça.
En tout cas, ce serait un changement économique considérable quand même.
C'est ça. Et très peu de politiques et d'intellectuels y réfléchissent en Europe. Pourtant, c'est vraiment urgent. Ça aura un impact sur le marché du travail. Comment vont se transformer les métiers? Ça aura un impact sur les salaires, avec un écart croissant entre les métiers qui seront concurrencés par les robots et les métiers qui, au contraire, vont les utiliser. Ça aura un impact géopolitique. Est-ce que l'Europe va les produire? Je pèse mes mots, vraiment. C'est sans doute le tsunami technologique le plus important du 21e siècle. Il est devant nous et nous ne le regardons pas.
Voilà, ils nous feront le café dans quelques années. Est-ce que plus tard, ce seront nous qui leur ferons le café? On verra ça. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, Signature Europe 1, 7h23.
Europe 1.
Les chiffres d'audience de la radio ont été publiés jeudi dernier par Médiamétrie et la famille Europe 1 s'agrandit encore ce trimestre.
Oui, nous sommes fiers et heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. C'est la meilleure progression des radios généralistes. Au total, vous êtes donc désormais 2 387 000 à écouter Europe 1.
Et on vous en remercie très chaleureusement au nom de tout Europe 1. 7h23, l'essentiel de l'actualité. Bon réveil à vous, le journal permanent Christophe Lamarre.
L'autoroute A13 restera fermée entre Paris et Vaucresson jusqu'au 1er mai, au moins délai soumis à modification en fonction des conditions de sécurité et de l'avancée des travaux de remise en état. La potion amère donne-t-elle déjà des fruits en Argentine? Le pays enregistre son premier excédent public trimestriel depuis 2008. Résultat communiqué par le très libéral président Javier Milei qui a largement taillé dans les dépenses de l'État pour ramener les comptes à l'équilibre. L'inquiétante étude de l'UFC Que Choisir sur les crèmes solaires pour visage. L'association a testé les indices maximum, à savoir 50 ou 50 plus. Sur 13 crèmes passées au crible, près de la moitié n'affiche pas le niveau de protection annoncé.
le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Il y a exactement 3 ans, le 23 avril 2021, l'astronaute Thomas Pesquet fait partie des 4 astronautes qui s'envolent pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée américaine SpaceX. Lors d'Autriche, il y a 3 ans, Europe 1 suit cette mission de très près.
Oui, ça n'a plus rien à voir avec les fusées historiques russes Soyouz que Thomas Pesquet connaissait. Avec SpaceX, tout est futuriste. Aucun bouton à l'intérieur de la capsule. Les astronautes ont face à eux 3 écrans tactiles. Et pour eux, eh bien, combinaison blanche conçue par des costumiers d'Hollywood. J'avais interrogé Thomas Pesquet sur Europe 1 quelques jours avant le décollage. Il redoutait plus son deuxième voyage dans l'espace que le premier 5 ans plus tôt.
Mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, mais on ne sait pas exactement à quel point. On ne sait pas exactement quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein.
C'est la première fois alors que SpaceX emmène un astronaute européen dans l'ISS. Énorme succès pour l'entreprise américaine, analyse le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Benoît Clerc.
SpaceX fabrique aujourd'hui quasiment une fusée par jour, là où il y a 2 décennies, on en faisait à peine une tous les 2 mois.
Après 23 heures de vol, les voilà arrivés et quelques heures plus tard, en apesanteur, en t-shirt et en chaussettes, Thomas Pesquet fait visiter la station spatiale en vidéo à ses fans et il leur montre la Terre.
Merci de voler avec nous et bienvenue à bord. Si on se rapproche, on peut voir à travers le hublot. Nous sommes au-dessus de Madagascar là, mais c'est assez nuageux. On a peu de visibilité.
En 6 mois dans l'espace, il aura fait une centaine d'expériences scientifiques et à son retour sur Terre, il n'a qu'une seule envie, repartir.
Je connais beaucoup d'astronautes, j'en fais peut-être partie quand ils partent dans l'espace. Ils disent bon, cette fois, c'est la dernière fois parce que quand même c'est dur, parce que quand même on souffre, parce que quand même on est loin des siens. Et puis après, au bout de 6 mois, ils ont tout de suite envie de repartir.
Mais après 6 mois en apesanteur, la colonne vertébrale s'est allongée. Thomas Pesquet a grandi de 5 cm qu'il a perdu immédiatement à son retour sur Terre. Mais il mettra 1 an à retrouver la densité osseuse qu'il avait avant son départ.
Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous envoie en croisière avec Croisi Europe, un magnifique cadeau avec la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Vous allez naviguer pendant 5 jours avec la personne de votre choix au fil de la Garonne et de la Dordogne, à la découverte des trésors vinicoles du Sud-Ouest, Blaye, Libourne, Saint-Émilion. Vous allez vous régaler. Tout est compris à bord. Une cuisine raffinée, les boissons, les animations. On s'occupe de tout. Hein. Les visites guidées, les excursions à terre. Vous pouvez dès maintenant découvrir votre future croisière sur croisieurope.com.
Voici la question du jour. Combien d'astronautes étaient à bord de la capsule en 2021? 3 ou 4?
Pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez croisière au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Éric Trappier sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le PDG de Dassault Aviation, le fabricant du Rafale, face à Sonia Mabrouk, c'est dans 3 quarts d'heure.
Europe 1.
Bonjour, c'est Christophe Ondelat.
Ondelat raconte.
Je sais que ça vous passionne, et moi aussi, je vais vous raconter des histoires de médecins légistes. En l'occurrence d'un médecin légiste belge assez célèbre, Philippe Boxo, qui raconte régulièrement dans des livres qui font un carton quelques-unes des affaires sur lesquelles il a eu à travailler.
Ondelat raconte.
À tout à l'heure, de 14h à 15h sur Europe 1.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi?
Oui, vous. Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto. Les enfants, on est sauvés.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman. Et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
7h, 9h, Europe 1 matin.
La météo, Anissa Haddadi, trempe, temps perturbé pour le sud du pays ce matin.
Pour le sud-est, déjà entre l'Auvergne et la Provence, c'est couvert. Hein, jusqu'aux Alpes, beaucoup de nuages, de la neige à basse altitude à partir de 400 mètres sur le massif central et les Alpes, des nuages et des averses tout au long de la journée, sans oublier le Mistral et la Tramontane qui soufflent fort encore aujourd'hui jusqu'à 80 km/h. C'est couvert de la Gironde jusqu'aux Pyrénées, avec là aussi de la neige à 800 mètres et des petites averses, et couvert toute la journée de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs, si je n'ai pas parlé de vous ce matin, c'est que vous aurez droit à de belles éclaircies. Les températures, moins 3 à 9 degrés ce matin, il fait encore frais, et cet après-midi 8 à 16. C'est dans le sud que les températures sont le plus en baisse, avec 16 à Marseille, 15 à Nîmes et 13 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, la paix sociale à tout prix. La direction de la SNCF cède à la pression des syndicats pour s'épargner des grèves pour les Jeux Olympiques. Elle vient de conclure un accord qui détricote la réforme des retraites à la SNCF. Explication dans un instant. Dans l'actualité également, des commerçants de campagne contraints d'apprendre à se battre. Des cours de self-défense. Dernière tentative pour se protéger des agressions qui se multiplient. Nous irons dans cette édition également à Montpellier. La double peine pour la jeune Samara, la collégienne tabassée au début du mois. Elle n'a pas pu reprendre les cours en classe, mais donc à distance. Les professeurs en colère étaient en grève ce lundi. Et puis le cocon fiscal pour Kylian Mbappé, taillé sur mesure par lui, par la ville de Madrid, une loi sur mesure pour espérer attirer la star du football français. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous pouvez réserver vos trains pour les ponts de mai, l'esprit léger. La direction de la SNCF aurait-elle acheté la paix sociale à quelques semaines des Jeux Olympiques ? La menace d'une grève pour ces ponts est écartée grâce à un accord signé hier avec les syndicats. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour à tous.
Cet accord, il va permettre en quelque sorte d'annuler certains effets de la dernière réforme des retraites.
Oui, la direction de la SNCF vient de lâcher du lest en premier lieu pour les conducteurs de train dont le métier est classé pénible. L'accord prévoit une amélioration du dispositif de retraite anticipée. Les conducteurs pourront entamer une cessation d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Pour les contrôleurs, le dispositif est encore plus avantageux, avec une cessation d'activité sur 3 ans, dont 18 mois non travaillés rémunérés à 75%. Clairement, l'accord permet de compenser en partie les effets de la réforme des retraites, se réjouissent les syndicats. D'ailleurs, les plus contestataires, Sudrail ou la CGT, ont décidé de ne pas appeler à la grève au mois de mai comme initialement prévu. Depuis les différentes réformes, les cheminots ont augmenté leur présence dans l'entreprise, affirment les syndicats. L'âge d'ouverture des droits est aujourd'hui fixé à 57 ans, mais beaucoup partiraient à 60. Un accord qui intervient en tout cas alors que les cheminots ont déjà obtenu des hausses de salaire de 12% sur les 2 dernières années.
Merci Christophe Bordet. L'accord à la SNCF, il en sera question dans la revue de presse d'Olivier Delagarde tout à l'heure. Ce sera compliqué en revanche dans les airs cette semaine. Grève et mobilisation record annoncés pour jeudi et vendredi par les syndicats des contrôleurs aériens. La direction générale de l'aviation civile, elle, doit donner ses prévisions dans la journée.
Europe 1, il est 7h33 et les agressions, l'insécurité ne concernent plus seulement les grandes villes. Les commerçants de petites communes s'entraînent pour y faire face.
C'est le cas à Toul. 16 000 habitants en banlieue de Nancy, 3 commerces braqués depuis janvier. Alors hier, pour la première fois, certains de ces commerçants ont pris des cours de self-défense. Le reportage Europe 1 signé Mélina Fachin.
On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Vous sortez de votre commerce ce soir.
Première leçon, parer une attaque au couteau en utilisant son sac comme bouclier.
voyez, et regardez, au ralenti ce que je fais.
Sept commerçants participent cet après-midi au cours de Patrick Petitjean, spécialiste du self-défense. Ils sont fromagers, assureurs ou encore photographes comme Grégory.
Je fais ce stage pour une raison très simple, c'est qu'en l'espace de 3 ans, on a eu 2 agressions studio. Donc c'était, je pense, le moment à apprendre à gérer le conflit, pouvoir se défendre. C'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, même si je ne pensais pas qu'un jour on en aurait besoin.
C'est Catherine Gournay, coiffeuse et présidente de l'Association des commerçants de Toul, qui a souhaité cet atelier.
Ça va nous apprendre à gérer notre stress. On voit aussi la progression au niveau national, quoi. Les agressions qui se multiplient, donc on se dit pourquoi pas dans notre ville, surtout qu'on a eu droit à plusieurs braquages en début d'année.
Un ancien policier explique également comment répondre à une agression verbale en adoptant le bon ton, la bonne attitude, car le mieux, c'est encore d'éviter le conflit.
Allez.
Toul, Mélina Fachin, Europe 1.
Et c'est pour éviter certaines de ces violences que des villes imposent un couvre-feu aux mineurs de moins de 13 ans. Première nuit hier à Béziers. Alors, est-ce efficace? Réponse dans le reportage du journal de 8 heures. Et on posera aussi la question en direct à Robert Ménard, le maire de la ville de Béziers.
Non, loin de là, Montpellier, 3 semaines après son passage à tabac, Samara n'est pas la bienvenue dans son collège.
Déjà traumatisée au point de ne pas reprendre les cours en présentiel hier, la jeune victime et sa famille, ciblées par des parents d'élèves et des professeurs pour la plupart en grève hier, ils reprochent à sa mère de les avoir pointés du doigt dans cette affaire. Alors dans ce contexte se pose la question de changer Samara d'établissement, comme l'explique son oncle.
Dimanche, je suis allé manger chez eux. Elle n'était pas bien. Elle n'est pas comme d'habitude. On ne la reconnaît pas comme d'habitude. Dans le choc, elle n'est pas bien. Elle veut parler qu'une seule personne, sa tante. On attend qu'elle se remette, quoi. En principe, elle devrait suivre des cours par correspondance. Vu l'état de la petite, en ce moment, elle ne devrait pas retourner à l'école. Surtout dans cette école. On est en train de voir pour avoir subvention ou avoir de l'aide pour la mettre dans une école privée. La changer d'école carrément. Il ne faut pas qu'elle revienne dans cette école. Parce qu'elle est bloquée. Elle se renferme elle-même. C'est très très grave. On l'oubliera jamais.
Le témoignage recueilli au micro européen de Charles L'Huillier. Autre affaire qui secoue l'éducation nationale. Un jeune homme comparaît aujourd'hui pour menace de mort contre le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il faut le brûler vif, avait-il posté sur les réseaux sociaux quand le chef d'établissement avait demandé à une élève d'enlever son voile dans la cour. Un proviseur qui avait ensuite démissionné pour sa sécurité. Dans l'actualité également, les pompiers réclament plus de moyens pour faire face aux aléas climatiques et aux incendies. Ils le diront au Beauvau de la sécurité civile qui démarre aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Des concertations avec l'État, les communes et les départements qui dureront plusieurs mois.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h37.
Kylian Mbappé pourrait bien faire bouger à lui seul la législation espagnole.
Ah oui, parce que le Real Madrid et ses supporters espèrent, trépignent d'impatience à l'idée que la star du foot français signe cet été pour le club de la ville. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, Dimitri Vernet, les autorités se préparaient à prendre bien soin de son porte-monnaie.
Oui, Kylian Mbappé agite déjà la politique locale espagnole. D'après les informations du quotidien régional El Nacional, la communauté de Madrid serait sur le point d'approuver une loi fiscale particulièrement intéressante pour les étrangers. Une mesure permettant aux expatriés d'alléger leurs impôts. Une déduction de 20% sur des investissements en bourse et dans des actifs. Une loi qui profiterait donc à la star, au capitaine des Bleus, s'il signe au Real Madrid cet été. Et cela n'est pas passé inaperçu. Les supporters madrilènes et les médias locaux y voient là un signe de son arrivée probable, à tel point qu'ils ont renommé cette loi Kylian Mbappé. Alors de leur côté, les élus régionaux l'assurent, ce texte n'a rien à voir avec un possible transfert du joueur, mais a bien pour but d'attirer les investisseurs étrangers. Mais tout de même, il y a de quoi se poser des questions, surtout que cette proposition rappelle fortement la fameuse loi Beckham en 2005, une mesure qui à l'époque a été mise en place après la signature au Real Madrid du milieu de terrain anglais et qui avantageait fiscalement les étrangers s'installant à Madrid.
Les explications de Dimitri Vernet. Allez Anissa, Dimitri, reposez-vous bien cet après-midi. Mmh. Les auditeurs qui le peuvent également. Ce soir, je vous amène danser à Bourges. C'est le début du printemps de Bourges ce soir.
Sûr.
Et le festival commence. Place Sérocourt avec un grand bal européen.
Tiens.
Alors pourquoi un grand bal européen? Tout simplement parce que Bourges sera capitale européenne de la culture en 2028. Alors les organisateurs ne donnent pas la playlist du bal ce soir, mais parlent des plus grands titres
oui.
du
c'est
continent.
C'est ça, un bal européen.
Moi, de mon côté, j'ai misé sur les Suédois d'abord. Je ne sais pas.
Oui,
gros,
mais non,
vous prenez
vous avez
pas
raison.
Beaucoup de risques.
Non, alors, jamais.
Alors moi, je mise sur la Macarena pour les Espagnols. Tiens.
Et pour les Italiens, alors qu'est-ce qu'on mettrait?
Tiamo.
C'est pas très dansant,
oui.
Tiamo.
Bah, il y a des slow. Bah,
oui,
bah,
oui, le quart d'heure, le quart d'heure américain. Enfin, il connaît pas tout ça, Victor Porcher, il est trop jeune. Merci beaucoup, Victor. Ce fut un plaisir. Allez, restez avec nous sur Europe 1 à suivre l'édito international d'Europe 1. On va parler de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, que le gouvernement israélien accuse d'employer des membres d'organisations terroristes. Notre ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rendu son rapport hier. On va le lire ensemble avec Vincent Hervouet dans un instant.
Vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME. Votre entreprise a un impact positif sur l'environnement et sur votre territoire ou sur la qualité de vie de vos salariés. Candidatez à la 4e édition des Trophées Generali PME Enterprise et devenez l'une des PME lauréates. Rendez-vous sur generali.fr/PME durable et c'est avec Europe 1.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl ?
Et non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes ASC décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Très oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Europe 1. À suivre dans un instant sur Europe 1, le Club Culture avec le jeu vidéo de la semaine et le livre sélectionné par Nicolas Caro. A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG. Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h42, merci d'avoir choisi Europe 1. Bon courage si vous grattez les pare-brises ce matin. Bonne route avec Europe 1, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, privé de conférence à Lille vendredi. Le leader des Insoumis a atterri à Sciences Po Paris hier soir. Il était en terrain conquis. Vincent Trémollet de Villers l'a regardé et écouté attentivement pour vous son débrief dans moins de 10 minutes. Le Club Culture d'Europe 1 matin, au sommaire, comme tous les mardis, c'est jeux vidéo. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose Harold Halibut. C'est un jeu vidéo indépendant tout en stop motion qui parle du quotidien d'un homme à tout faire aux confins de l'espace.
Stop motion, c'est, voilà, c'est gros mythe. Hein,
tout pour à fait, Dimitri, une idée. C'est ça.
Le livre du jour, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, la vie hyper romanesque de Caroline Bessette et John Kennedy Jr.
A tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet, et oui, les affaires du monde n'attendent pas.
Bonjour
Vincent.
Bonjour à tous.
Catherine Colonna, notre ancienne ministre des Affaires étrangères, a remis hier au secrétaire général des Nations Unies le rapport sur la neutralité de l'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qu'Israël accuse de complicité avec les terroristes. Bon, conclusion de ce rapport, l'UNRWA est indispensable et pas coupable.
Circuler, il n'y a rien à voir. Vous qui avez été écœuré d'apprendre que les 12 membres
membres des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont participé au pogrom de masse du 7 octobre, que 30 autres ont trempé dans ce massacre et que plus de 2000 sont affiliés à des organisations terroristes, eh bien sachez qu'il n'y a aucune preuve. Pas de pistolet fumant, de couteau sanglant, pas d'aveu crédible ni d'indice probant. Israël accuse, mais sans fournir autre chose que quelques noms. En général, on fait crédit aux services secrets israéliens quand ils parlent de terrorisme, pas Catherine Colonna. Elle souligne que l'UNRWA fournit depuis 15 ans la liste de ses employés à Israël qui n'y trouvent rien à redire. C'est le premier point saillant de ce rapport. Il cherche une vérité judiciaire. Évidemment, il ne risque pas de la trouver. Il y a un sous-entendu politique. Ce que dit Israël doit être pris avec les pincettes qui s'imposent au chevet d'un pays traumatisé, dirigé par un gouvernement aux abois, dans un contexte de guerre, et qui dit la guerre dit propagande. Ce n'est pas écrit dans le rapport, c'est ce que clament les pays arabes dans les couloirs de l'ONU.
Alors, le rapport Colonna disculpe l'UNRWA et justifie son existence.
Oui, deuxième point important, écrit noir sur blanc, l'UNRWA est irremplaçable et indispensable au développement humain et économique des Palestiniens. Alors, on lit ce commandement, on entend chanter les anges, et pour se réveiller, il suffit de jeter un coup d'œil aux Gazaouites, pris en tenaille entre le Hamas et l'armée israélienne, et aux Cisjordaniens pris en otage par la corruption effrénée de leurs dirigeants et la vindicte des colons. Quel est ce développement humain et économique dont l'ONU serait le levier ? La réalité, c'est plutôt un système d'assistanat généralisé géré par la bureaucratie onusienne. Qu'importe, si l'UNRWA est irremplaçable, comme prétend le rapport, à quoi bon en discuter ? Les anglo-saxons et les européens qui ont suspendu leur financement feraient mieux de les reprendre. Eux aussi sont indispensable, irremplaçable. Le rapport prétend que l'UNRWA a mis en place un fonctionnement robuste pour assurer sa neutralité. On lit cette langue de bois et on se dit, qu'est-ce que ce serait ? Le militantisme est interdit par contrat aux employés, mais quiconque est allé dans les camps palestiniens a discuté avec les employés sur le terrain, feuilleté les livres d'histoire distribués dans les écoles, a mesuré à quel point l'organisation est militante. À l'UNRWA, on est réfugié de père en fils, 700 000 en 1949, 6 millions aujourd'hui, c'est l'arabe errant pour l'éternité.
Vous nous dites, Vincent, que Catherine Colonna sait tout cela.
Bien sûr, elle a tellement bourlingué dans le sillage de Jacques Chirac, elle a arpenté avec lui pendant 12 ans le Liban d'Hariri, la Syrie d'Assad père et fils, l'Égypte des Moubarak, mari et femme. Elle aussi s'est fait marcher sur les pieds pendant 2 heures par la police des frontières israéliennes dans les rues de Jérusalem-Est, avant de craquer « What do you want ?» et l'accueil triomphal le surlendemain à Ramallah. Elle a suivi pas à pas toutes les tentatives du docteur Chirac pour arracher un compromis à Arafat jusqu'à la fin à l'hôpital militaire de Percy, où le vieux chef palestinien est mort, épuisé ou empoisonné, le 11 novembre, il y a juste 20 ans. L'ONU est ce machin qui maintient les Palestiniens dans un statut de victime pour l'éternité, et les anciens ministres français des Affaires étrangères dans le chiracisme.
Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.
7h47. 7h-9h, Europe 1 Matin.
Place au livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, un biopic, comme on dit, l'histoire d'un couple célèbre qui a donc vraiment existé des années 90.
Signé Stéphanie Desor, Caroline et John, c'est le titre. Caroline, c'est Caroline Bessette, et John, c'est bien sûr John Fitzgerald Kennedy Jr., le petit bonhomme qui faisait un salut militaire devant le cercueil de son président de père.
Le John, hein, qui est mort dans un accident d'avion.
Voilà, en juillet 99, c'est lui qui pilotait. Il y avait aussi Caroline, donc, et sa sœur Lorraine Bessette, mais ça, c'est la fin de l'histoire. Stéphanie Desor reprend depuis le début dans ce qui ressemble à effectivement à un biopic, une biographie romancée, c'est-à-dire que tout est vrai, mais les dialogues et les situations sont réinventés, reconstitués pour construire un roman. On commence donc par le commencement avec John et sa mère Jackie et son beau-père Onassis, dont le fils Alexandre transmet sa passion pour le pilotage à John. Bon, on se rend compte assez vite que l'écrivaine n'a eu qu'à se pencher en fait pour construire le roman du couple glamour. On passe d'anecdotes incroyables en situations dingues à l'université. John est hyper convoité, bien sûr, c'est un prince. Mais un prince étourdi qui perd tout le temps, y compris l'argent liquide, et donc il évite de se balader avec. Quand il en a besoin, il fait un chèque de $100 à l'un de ses copains qui lui donne l'équivalent en billets. Mais un jour, John lui dit « C'est bizarre, tu n'encaisses jamais les chèques que je te fais. » Et non, répond l'autre, « Je les revends $500 à tes fans qui les encadrent. » Ou la fois où une étudiante vire les affaires de l'ami et colloque de John sur le campus pour s'installer avec lui. Elle met ses vêtements dans les placards et tout. Elle sera évacuée par la sécurité.
Et alors Caroline ?
Elle arrive, et naturellement, c'est celle qui ne le regarde même pas. Froide, malicieuse, extravagante et volage, voilà comment elle est dessinée au début. « Pauvre mortel », écrit Stéphanie Desors, « passez votre chemin, cette fille n'est pas pour vous ». Mais on parle aussi de son regard incisif, mi-coquin, mi-intrusif, et cette manière de bouger la tête et de sourire, l'air de rien, l'air de beaucoup plus. Elle ne doit pas mettre plus de 5 minutes à s'habiller, c'est une reine. Elle a quelque chose de mystérieux et d'addictif. Cette description, c'est Kelly Klein qui l'a fait, la femme de Calvin. Elle a croisé Caroline, alors vendeuse dans une boutique de la marque. On les suit dans leur vie incroyablement romanesque, leur déchirement, leur lubie, la création du journal George, comme George Washington par exemple, via les Français et Hachette Filipacchi d'ailleurs, et jusqu'au dernier vol, donc tragique, et qui participe à la légende.
Alors encore une aventure américaine, signée Stéphanie Dehors, qui adore cette Amérique du XXe siècle. Hein. Caroline et John, c'est donc chez Albin Michel.
Ils sont beaux, hein, sur la couverture, ils sont très beaux tous les deux.
Ah bah oui, beaucoup plus que nous, et que Vincent surtout.
C'est gratuit ça.
C'est la famille Monaco des Américains.
Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Donc, s'appelle, vous nous avez dit, Harold Halibut. C'est une production allemande et j'ai remarqué que ça emballe la presse spécialisée, la presse jeux vidéo.
Oui, je vous propose une aventure qui nous transporte à bord d'un vaisseau terrien de colonisation spatiale envoyé il y a 250 ans, qui s'est écrasé sur une planète océanique. Transformé depuis en ville sous-marine, nous, on incarne Harold Halibut, l'homme à tout faire qui n'a jamais connu la Terre. Alors, il est du genre apathique mais attachant. Il répond aux requêtes des habitants sans se plaindre. Tout en rêvant de trouver un sens à son existence, sa rencontre avec un alien marin va lui ouvrir cette voie.
Alors c'est une expérience narrative, ce jeu voire cinématographique.
Oui Dimitri, si pas de mécanique révolutionnaire ou compliquée au rythme frénétique, Harold Halibut est à l'image de son anti-héros mélancolique, un jeu qui prend donc son temps, où on doit faire des allers-retours, parler à des gens et résoudre des énigmes on ne peut plus simples, car ce qui est important, c'est le développement du protagoniste, comme dans un film de Wes Anderson, connu entre autres pour The Grand Budapest Hotel. Harold Halibut s'inspire du réalisateur et propose un jeu avec des personnages décalés, loufoques, qui poussent Harold à se questionner sur l'absurdité de sa vie.
Alors, la réalisation du jeu emploie la technologie dite du stop motion, c'est-à-dire on crée des images par des mouvements, comme des figures de pâte à modeler qu'on déplace mouvement après mouvement, image par image.
Oui, et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Wallace et Gromit ou Chicken Run ? Eh bien, Harold Halibut, c'est exactement ça. Tous les personnages, décors et accessoires ont été conçus à la main, ensuite numérisés et animés par ordinateur. Un travail artisanal titanesque qui aurait pris plus de 10 ans. Alors on est loin, Dimitri, des jeux vidéo rendus toujours plus réalistes, mais cela n'en reste pas moins bluffant et impressionnant de petits détails. Harold Halibut est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouet, qui est très beau finalement quand même, si je vous trouve très beau.
Finalement.
Quel démagogue.
Allez, dans un instant, votre édito politique. Et juste après, le journal permanent, 7h52 sur Europe 1, Victor Pourchet.
Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire après la blessure par balle de Kenji Girac hier. Les enquêteurs vérifient si la piste accidentelle est crédible. C'est celle avancée par le chanteur. Il explique que le coup est parti par erreur alors qu'il manipulait une arme. Gabriel Attal présente un plan de simplification administrative aujourd'hui. Parmi les mesures, l'intelligence artificielle pour répondre à certaines questions posées aux agents du fisc, par exemple, ou encore la généralisation à toutes les élections de la procuration tout en ligne expérimentée pour les européennes. Et puis le Parlement britannique approuve le texte pour expulser des migrants illégaux vers le Rwanda. En échange, Londres paiera le pays africain. Le texte initial, mesure phare du Premier ministre, avait été jugé illégal par la Cour suprême britannique. Les premiers vols décolleront d'ici 3 mois, assure Rishi Sunak.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, hier soir, Jean-Luc Mélenchon donnait une conférence à Sciences Po Paris, alors après celle de Lille, qui avait été interdite vendredi dernier pour des raisons de troubles à l'ordre public. Le chef des Insoumis a donc retrouvé un amphi pour s'exprimer en toute liberté.
Oui, on peut même dire qu'à Sciences Po Paris, malgré un petit comité d'accueil, Jean-Luc Mélenchon jouait à domicile. C'est la deuxième fois de l'année qu'il y prononce une conférence et hier, ils étaient près de 1000 à venir l'écouter dans l'amphi Boutmy. L'ancien sénateur socialiste y a fait l'éloge de l'insoumission. Et il y avait quelque chose d'affligeant dans cette mise en scène collective où de jeunes étudiants soumis à tous les conformismes ont ovationné le dignitaire du gauchisme culturel comme si c'était un résistant. Le temple du politiquement correct qui s'imagine en assemblée révolutionnaire le tout pour 15 000 euros par an, ça fait quand même un peu cher le frisson. D'autant que les vrais rebelles, Ce sont Alain Finkielkraut, qui ne peut pas mettre les pieds dans cet amphi. C'est l'universitaire Florence Bergeau-Blaquer, qui n'est pas la bienvenue à Sciences Po depuis qu'elle a publié son livre sur les frères musulmans. Et ce sont tous ces intellectuels que le progressisme radicalisé a disqualifiés sans même avoir lu leurs œuvres.
Alors ça n'a pas empêché, et ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de se poser en victime. Il a été hier jusqu'à comparer le président de l'université de Lille, qui avait interdit sa conférence avant, à Adolf Eichmann.
Oui, c'est une comparaison insensée où la grandiloquence le dispute à l'indécence. Grandiloquence parce que Jean-Luc Mélenchon, pour un minuscule événement, n'hésite pas à réveiller les orgues les plus tragiques de l'histoire. Indécence parce qu'avec cette comparaison, le chef des Insoumis poursuit sa volonté de nazifier Israël et d'établir une équivalence entre la Shoah et Gaza. Obscénité même, quand il s'appuie sur Anna Arendt, dont il confond les ouvrages, pour justifier sa comparaison et s'en prendre à ceux qui, je le cite, veulent dissoudre l'objet central du litige, un génocide. L'idée, on l'a compris, est de faire de Gaza le thème de la campagne des européennes et de l'activiste pro-palestinienne Rima Hassan la figure de proue de la liste des Insoumis, avec comme objectif le vote des banlieues. Mais apparemment, l'islamo-gauchisme répond plus vite dans nos grandes écoles qu'à Trappes ou à La Courneuve. C'est à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye que Rima Hassan devrait à son tour donner une conférence. En vérité, en Occident, depuis le 7 octobre, tous les bastions universitaires du wokisme ont basculé dans un antisionisme obsessionnel, quand ce n'est pas dans un antisémitisme décomplexé, et c'est proprement effrayant.
Alors reste, Vincent, que la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu tenir sa conférence à l'Université de Lille. Elle a été interdite par le préfet au nom de possibles troubles à l'ordre public. Est-ce que ça n'est pas tout de même un recul de la liberté ?
Oui, c'était le censeur censuré. Le chef des Insoumis a subi ce que sa mouvance impose à tous ses adversaires politiques. Comme libéral, on doit dénoncer l'empêchement de cette conférence. Mais sans oublier que la gauche radicale pratique volontiers cette menace de trouble à l'ordre public pour les meetings de ses opposants. Éric Zemmour, par exemple, vit en permanence sous la menace des désordres de l'extrême gauche et l'on n'a jamais entendu Jean-Luc Mélenchon s'en émouvoir. Plus profondément, il faut rappeler que l'université, ce n'est pas un lieu vacant, ouvert à tous les discours. C'est le lieu de la liberté académique plus que de la liberté d'expression. Il ne faut pas tout confondre. La liberté d'expression a pour canaux les journaux, les livres, les télévisions, les radios, les réseaux sociaux, les manifestations. Mais l'université, ça n'est pas un média. Sinon, il faut inviter Jordan Bardella, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Valérie Ayer, Raphaël Glucksmann. Mais vous savez très bien que cela n'arrivera jamais. À l'université, la liberté académique est de plus en plus sous la surveillance de la gauche radicale. Et dans les amphis, la liberté d'expression politique est interdite, sauf pour la gauche radicale.
L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trémolet-Villers. Et à la une du Figaro ce matin, le plan de Gabriel Attal contre le cauchemar bureaucratique. Le Premier ministre va en effet dévoiler aujourd'hui des mesures pour simplifier la vie des Français face à l'administration. Le volet entreprise, ce sera demain avec une loi Pacte 2 qui sera présentée en Conseil des ministres par Bruno Le Maire. On vous en reparlera évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent,
à demain.
Il est 7h57, très bon début de journée avec Europe 1. Nous sommes le mardi 23 avril.
Nous fêtons Saint-Jean. Georges, officier dans l'armée romaine, Georges refuse de sacrifier aux dieux de l'Empire, comme l'ordonne Dioclétien, l'empereur. Et Georges est exécuté pour cela. C'est l'un des saints les plus populaires. Il est le saint patron de l'Angleterre, mais aussi de la Catalogne. Il a aussi donné son nom à la Géorgie. Bon réveil avec Europe 1 dans un quart d'heure face à Sonia Mabrouk, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier. 7h57.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protège-slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France.
ça fait beaucoup de chiffres. Mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS. Vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche.